d'abord exprimer notre grande joie pour Ursula et moi d'être là, de pouvoir être ensemble avec vous. C'est un grand, grand privilège, une joie de se retrouver, une joie de s'attacher ensemble au Seigneur. Et c'est ce que je désire aussi dans ce petit temps de partage ensemble en ouvrant la parole de Dieu. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'il faudrait réfléchir à un but quand on veut vivre. Il semblerait. Ce ne serait pas plus mal de savoir pourquoi on vit et de savoir aussi est-ce que dans la direction où je suis en train de vivre, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce qu'effectivement ça vaut le coup de prolonger la respiration si je vis dans la direction où je suis en train de vivre? Alors bien sûr, moi je ne suis pas un sage, donc j'ai cherché à savoir ce qu'un sage dirait à cette place. Et donc je me réfère au roi Salomon, qui, avec tous les écrits qu'il nous a laissés, avec tout ce qu'il a été sur le plan de la connaissance, avec tous les chants qu'il a composés, avec les psaumes qu'il a faits, avec tout ce qu'il a construit, avec le nombre de biens qu'il a eu, avec le capital qu'il a eu, a certainement quelque chose à nous dire par rapport au sens de la vie. Je lis un premier passage dans l'Ecclésiaste au chapitre 1er, les versets 12 et suivants. Donc l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui écrit. « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. » Ce qui est courbé ne peut pas se redresser, et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissances. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela aussi, cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. Encourageant, non? Vous voulez souffrir ce matin, ça va? Encourageant. Mais le même roi Salomon écrit un psaume, le psaume 127. Où il nous montre, après conclusion, après réflexion, avec tout ce qu'il a pu avoir et tout ce qu'il a laissé de côté en considérant que c'était inutile et que ce n'était pas le chemin de la sagesse, il dit dans ce psaume que je lis, un chant des montées, donc les montées c'est quand on montait l'escalier vers le temple, le chant des montées, psaume 127, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Le fondement d'une vie qui pourrait être inutile. Le sens d'une vie qui pourrait être insensée. Ça fait réfléchir. Quand on arrive à la retraite, j'y arriverai peut-être un jour, mais quand on arrive à la retraite et qu'on fait certains bilans, c'est impressionnant de se dire « je ne voudrais pas passer à côté du vrai sens de l'existence ». La vie, vous le savez tous, la vie vous a été donnée, la vie, la respiration, vous ne l'avez pas cherchée, elle vous a été donnée, et le fait que vous respirez aujourd'hui, c'est que vous êtes en vie. Seulement, cette respiration, nous le savons tous, peut s'arrêter d'un instant à l'autre. C'est lorsque la vie part. Et aucun de nous ne sait le jour ni l'heure. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de réfléchir, est-ce que ma vie, elle a un réel sens? Est-ce que ma vie, je l'ai investie pour ce qui a des dimensions d'éternité? Je me suis toujours réjoui d'être ici, Ursula aussi bien sûr, on est ensemble, hein, on a toujours été équipe Ursula et moi, mon épouse et moi. On s'est beaucoup réjoui les années où on a été ici, de voir comment Dieu et sa vie à lui pénètrent dans des cœurs, des consciences, des façons de faire, comment le Saint-Esprit travaille à la transformation des vies de toutes ces vies qui désirent l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu est formidable. Dans le ministère pastoral ou missionnaire, je ne sais pas ce que j'ai comme ministère au juste, mais dans le ministère, en servant le Seigneur, ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, c'est de contempler, c'est de regarder. C'est d'être émerveillé lorsque des yeux changent, lorsqu'un visage change, lorsqu'un cœur change, lorsque quelqu'un qui vivait dans une direction insensée en voulant juste construire pour sa propre vie, construire sur sa connaissance, construire sur sa formation, construire sur son matériel, construire sur ses finances, lorsque toutes ces constructions d'un coup laisse un visage chargé et que le Saint-Esprit vient, que l'Esprit de Dieu travaille et que toutes ces choses qui étaient prioritaires deviennent secondaires. Et où subitement, il y a une autre mission qui jaillit des yeux de cette personne. Elle a découvert en Christ un rocher, un élément solide, inébranlable. Et maintenant, comme Salomon le dit, la personne ne construit plus sur ses biens, sur sa connaissance, sur tous ses diplômes, qui sont importants. Mais elle ne construit plus là-dessus. Ta valeur, ce ne sont pas les valeurs que le monde te donne. Ce ne sont pas tes vraies valeurs. Ta vraie valeur, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Laissez-moi lire un passage où c'est Jésus qui parle, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Je commence à partir du verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu déliras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Ne le dire à personne, puisque la croix n'était pas encore, il n'est pas encore mort pour être le sauveur de l'humanité à ce moment-là. Le rocher sur lequel l'Église a été construite, c'est la déclaration, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Si quelque chose a bougé dans cette Église, dans la croissance spirituelle et dans la croissance en nombre, c'est uniquement le travail de celui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». On peut avoir les meilleures stratégies, la meilleure connaissance, la meilleure réflexion, les meilleurs principes. L'implantation d'église, bâtir l'église, le pro, c'est Jésus. Le pro, c'est Jésus. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Et tous ceux qui sont prêts à le considérer, lui, dans leur vie personnelle, comme le rocher, comme celui qui est le centre de l'existence, qui ont commencé à découvrir tout d'abord le Sauveur. Si tu es ici ce matin et que tu n'es pas sûr d'avoir Jésus comme Sauveur de ta vie, j'aimerais très sérieusement te dire, aussi longtemps qu'il ne l'est pas, tu passes à côté du sens de la vie. Il n'y a pas trois chemins. Il y a le chemin sans Jésus qui est le chemin de la perdition et qui mène en enfer. Que tu le crois ou pas, ça mène quand même en enfer. Et il y a le chemin de l'acceptation du seul Sauveur que Dieu a donné pour l'humanité, de Jésus-Christ, qui meurt et qui est mort pour payer le prix de ma désobéissance, de ta désobéissance, qui a payé le prix de mon indépendance, de ton indépendance, de mon désir d'être sans Dieu, de ton désir d'être sans Dieu. Et lorsque tu peux reconnaître que sans Dieu, c'était un insensé, c'est ce que dit la Bible, alors une porte s'ouvre dans ta conscience, une porte peut s'ouvrir dans ton cœur, une porte peut s'ouvrir dans ta réflexion. La porte couvre le Saint-Esprit pour te dire, viens, viens, viens à Jésus. Dis-le, tu as besoin du Sauveur. Dis-le-lui. Ce texte, je l'ai lu dans Matthieu pour nous rappeler, il y a un rocher sur lequel se construit l'Église, c'est Jésus. Il y a une confession de foi sur laquelle se bâtit l'Église du monde entier et au travers de tous les siècles. C'est le nom de Jésus. Mais j'aimerais encore lire un autre passage. Ça va? Vous ne dormez pas encore, non? C'est bon? Ok, voilà. J'aimerais te lire un autre passage qui est la conclusion de Jésus sur le sermon sur la montagne. Tu te rappelles certainement de ce texte de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Où les disciples étaient réunis autour de Jésus, il est allé sur la montagne, il s'est assis, il y avait d'autres gens qui étaient là, et Jésus a commencé à parler avec ses disciples, en leur montrant quel est le chemin pour être heureux. Heureux en étant humble, heureux en dépendant de Dieu, heureux en étant simplement dans une recherche de justice. Et à la fin, alors qu'il a développé toute son éthique, Jésus, en disant, les anciens vous ont dit dans les commandements, tu ne tueras point. Mais Jésus voulait montrer à ses disciples, tu sais, le meurtre commence dans la pensée, pas dans l'action. Moi, je vous dis que celui qui dit idiot à son frangin, il a déjà commis un meurtre. Les anciens vous ont dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde une femme pour convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Jésus voulait juste leur dire, les lois sont super. Mais le mal ne commence pas dans l'action, il commence dans ta pensée. Tu as besoin d'une transformation profonde. Et quand il termine le sermon sur la montagne, je lis Matthieu 7, versets 24 et suivants. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Ta vie fondée sur quoi? Ce rocher était là depuis longtemps. L'apôtre Paul nous dit même dans une des épîtres, la première aux Corinthiens, il dit même que ce rocher dans le désert où le peuple de Dieu avançait, ce rocher déjà dans l'Ancien Testament, ce rocher était Christ déjà, déjà Christ. Et Jésus continue en disant, « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison, elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Grande. Dans le psaume 127, Salomon parlait de la maison, et particulièrement de la maisonnée, parce qu'il parle ensuite des fils qui sont reçus de Dieu. Il parle de la maisonnée. Il dit que la maisonnée, si tu construis ta famille, si tu la construis ta famille sans Dieu, si tu veux veiller sur ta famille sans Dieu, il dit que tu travailles inutilement. Il parle de la famille. Il parle du besoin de Dieu dans la maisonnée. Et puis Jésus parle de l'Église. Dans l'Église, il y a le même rocher, c'est Jésus. Sinon, c'est inutile. Et à la fin du sermon sur la montagne, Jésus parle de l'individu. La famille, l'Église, l'individu. Les trois domaines sociaux ont la même source pour ne pas être inutile et pour porter des fruits dignes du royaume de Dieu. Ta maisonnée, la source sur le rocher. Ton église, le rocher. Ta vie personnelle, ta maison construite sur le rocher. Je termine. Psaume 62, quelques versets, verset 6. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Si je pouvais, à toi qui n'as pas encore reçu Jésus, si je pouvais te convaincre, je le ferais. Voilà des décennies que je connais la bonté de Dieu envers moi, sa fidélité. Voilà des décennies que je connais un ministère où Dieu a prouvé qu'il est capable de travailler avec un incapable. Voilà des jours et des jours où Dieu ne s'est pas lassé de me pardonner. Où je peux revenir à lui, il ne me rejette pas. Voilà une paix profonde installée que aucun être humain ni aucun système ne peut installer. Une paix face à la mort que j'ai vu passer quelquefois de très près. Mais la paix était là. La paix que Dieu donne, elle n'est pas comparable. Alors j'aimerais te dire, si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton sauveur, ne pars pas d'ici sans qu'on puisse s'entretenir, pas forcément avec moi, mais avec l'un ou l'autre de ceux qui le connaissent déjà, le Seigneur, où tu peux dire, j'aimerais tant connaître une vie qui a un sens. Je ne veux pas passer à côté du salut. Je ne veux pas aller en direct en enfer. Je veux connaître le Sauveur. Et je termine pour toi qui es déjà au Seigneur. J'aimerais te dire, fonce, Robert l'a dit. Je dis la même chose, hein? On se répète un peu, Robert, hein? De génération en génération. Mais quand on a eu la joie d'arriver à la Servette, Ursula et moi, Je me suis d'abord tourné vers les aînés, ceux qui sont déjà partis au ciel en partie. Et je dis, les frangins, j'ai besoin de vos conseils. Je suis un genou, je peux me planter, j'ai besoin de vous. N'est-ce pas, Willy? Tu t'en rappelles. Et ensemble, on a pu réfléchir, décider, prier. Et je bénis l'équipe de jeunes anciens que Dieu avait mis à mes côtés, une équipe super. Je ne savais pas qu'il y a des gens tellement bien qui existent, mais je les ai rencontrés. Voilà. Hein. Et je me suis dit, mais moi je suis le brouillon là-dedans et les autres sont tout à fait capables. C'est quand même, c'est glorieux comme truc. Hein. Et j'ai vu l'œuvre de Dieu et je me suis réjoui à l'œuvre de Dieu. Ursula aussi, nous l'avons vu. Et j'aimerais encourager toute cette église à la pérennité. Qu'est-ce que ça veut dire? La pérennité, c'est investissez dans le travail d'évangélisation, de témoignage de vos enfants, dans les tout-petits. L'avenir se construit par les générations suivantes. Ces générations suivantes ont besoin toujours du même principe, des modèles de vie. La théologie ne suffit pas. C'est bien la théologie, je ne suis pas contre. Mais ça ne suffit pas. C'est l'application de la théologie dans le quotidien qui va faire que d'autres enfants, les prochains, veulent connaître qui donne à papa cette force de demander pardon à maman. Quand même, il est costaud, hein? Il peut carrément s'humilier. Pas possible. Qui donne aux parents cet enthousiasme d'aller à l'église? Qui leur donne ça? L'enfant veut réfléchir, il veut voir, il veut considérer les choses. Et l'Église est pérenne à cause du rocher, à cause de Jésus. Et parce que toi et moi, nous croyons que nous devons investir dans les générations suivantes et continuer à témoigner la victoire de Jésus dans cette ville et là où tu habites. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.